Ce soir, tu vas nous parler de l'utilité des défenseurs 5 et 6,
oui.
Leur impact au sein d'une équipe, c'est toujours très important. Et je dirais même que plus on approche des séries, plus ces gars-là sont importants.
Oui, puis la répartition de la charge de travail, des fois tu vas avoir des équipes comme ici, entre autres. Là.
Oui.
Matt Grizzlick, il joue en avantage numérique, puis tu es ta troisième paire.
Oui.
Par contre, Carlo ne joue pas sur l'avantage numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que Brandon Carlo et Dezanne O'Shara jouent 0 minute actuellement en avantage numérique. C'est sûr, des situations d'urgence où quand il n'y a plus de match, là, pour leur faire plaisir, on va leur donner un peu l'avantage numérique. Mais la réalité, c'est que ces gars-là prennent toute la charge de travail en désavantage numérique.
Ouais.
Là, je vais vous donner un chiffre qui nous donne une approximation, oui, du talent de cette formation, mais surtout de leur efficacité en désavantage numérique. Quand on parle d'efficacité en désavantage numérique, c'est pas juste du talent, c'est de l'ardeur au travail.
Ouais.
Et pourquoi tu peux être efficace en désavantage numérique? Il y a plusieurs petits facteurs. Tes joueurs de soutien sont de qualité. Ta troisième, quatrième ligne, tu sais que tu peux leur faire confiance. Alors ici, tu parles de Corrali, qui est leur premier gars, leur spécialiste.
Pas méchant.
Ensuite, tu parles de Charlie Coyle.
Excellent.
Et tu vas terminer, tu vas avoir Bergeron qui va venir prendre des mises en jeu, puis tu vas terminer ça avec Marchand de temps en temps. Donc, tu es en voiture.
Oh oui.
Mais c'est important de mentionner que ton troisième, quatrième trio va prendre beaucoup de responsabilités. Donc, ça dégage Bergeron, qui est un spécialiste de défensive, mais qui n'est pas obligé de se taper tout le travail, contrairement à ce qu'on voit à Montréal.
Avec Philippe Danault.
Exactement. Donc, on peut l'envoyer plus en avantage numérique et ménager des cartouches. Même chose à la défense. Et là, c'est le même principe à la défense. Et là, je fais très rapidement.
Oui.
Je vous dis que la meilleure. J'ai regardé le différentiel, j'ai calculé les buts pour, en avantage numérique donc, et les buts en désavantage accordés. Et j'ai fait un différentiel. Les Bruins de Boston sont plus 22.
Révélateur.
C'est plus 22. C'est donc les meilleurs de toute la Ligue nationale.
Oui.
Avec Edmonton qui est juste devant eux à plus 24.
Intéressant.
Et ça m'a surpris, Martin.
Je les
aurais pas placés là. Mais ça donne une idée de la qualité de leur gardien, de la façon dont on travaille et tout ça. Alors, on voit que les bonnes équipes, là, les équipes qui sont vraiment dans le coup...
Rapidement, le top 5, c'est qui?
Ben, en fait,
Boston.
Les Oilers, Boston.
Saint-Louis.
Saint-Louis est là. Ensuite, dans les autres formations... Là,
je vois Toronto. Est-ce que c'est bien ça? Tampa Bay?
Toronto, je veux dire, plus 13, Tampa Bay. Plus 12, Vancouver, qui m'a surpris également.
Meneur de sa division, quand même.
Quand même. Alors, ça, c'est les meilleurs.
Okay.
Là, ceux qui sont dans les plus. Et ce que ça me fait dire, c'est que tes défenseurs 4, 5, 6, que ce soit eux qui prennent des responsabilités en avantage numérique pour dégager du temps de glace en désavantage, l'équilibre de ta défensive est essentiel. Tu as besoin de tes 6 défenseurs. Et chez le Canadien, c'est là où le bas blesse. Alors aujourd'hui, on regarde le match, on se dit, chez le Canadien de Montréal, comment on va faire pour aller chercher ce cinquième, sixième défenseur, des gars d'expérience, même un quatrième à la limite dans le cas du Canadien. Là, moi, je te parlais d'un gaucher.
Il manque un quatrième.
Mais là, il faudra penser à faire des transactions, à peut-être laisser partir, dépendant de parce que, écoute, Suzuki amène une dimension qui est un peu inespérée, là, parce que ça relègue un peu...
Au centre.
Ça relègue un peu Max Domi au troisième poste de centre ou une modification de le replacer à l'aile. Mais quoi qu'il en soit, si Kotkaniemi se développe assez rapidement, on pourra peut-être être en position de regarder...
De monnayer Domi.
À laisser partir Domi qui, pour certaines équipes, représente quand même un apport intéressant.
C'est un bon joueur. Quand tu le regardes,
il y a
des choses à offrir. Le 28 buts l'année passée,
oui.
Quand même. Danny, on regarde soir après soir, que ce soit à Montréal ou partout ailleurs où on va, avec l'approche de la date limite des échanges, on regarde toujours la liste des recruteurs professionnels présents lors des matchs. Et ce soir, il y a une équipe qu'on n'attendait pas du tout et qui est surreprésentée ce soir. Et c'est le Lightning de Tampa Bay.
Ouais.
En général, les équipes de la Ligue nationale vont déléguer un recruteur professionnel dans un match. Parfois, quand ils vont vouloir voir certaines choses, ils seront deux. Mais là, ce soir, le Lightning de Tampa Bay sont trois. Trois représentants du Lightning qui viennent surveiller le Canadien et les Bruins. Il serait extrêmement surprenant que les Bruins et le Lightning jasent de transactions ensemble parce qu'ils sont tous les deux en lutte pour la même affaire, c'est-à-dire la Coupe Stanley.
Oui.
Et ils sont dans la même division. Ils ne s'aideront pas mutuellement.
Oui. Non.
Alors, on peut peut-être penser que ce que le Lightning vient surveiller, c'est un joueur du Canadien.
Oui.
Et avec trois recruteurs professionnels, là, ça nous laisse peut-être croire qu'actuellement, le Lightning regarde des choses très sérieuses dans la formation du Canadien. Je serais surpris que ce soit Kovalchuk. Le Lightning n'a pas besoin d'un Kovalchuk.
Non.
Ils ont besoin de quoi, le Lightning?
Bien, eux, ils ont besoin de... On a regardé ensemble leur masse salariale. Ils ont besoin de faire de l'espace. Ils ont besoin d'aller chercher certainement un défenseur, mais aussi de regarder...
Peut-être un joueur de centre.
Un troisième joueur de centre, effectivement. Oui. Amener un peu d'offensive à leur ligne de centre. Parce que le jeune Cirelli, là, comme deuxième joueur de centre, c'est correct, mais c'est pas de l'offensive.
Il génère pas assez d'attaque.
Dans le meilleur des mondes, on aurait Braden Point, on aurait un joueur offensif, puis on aurait Cirelli comme troisième centre.
Alors, c'est pas Dano qui est sur le marché, puis c'est pas Nick Suzuki non plus.
Non. Alors, écoute, moi, je pense que Domi intéresse une formation comme celle-là, c'est sûr. Et Domi coûte moins d'argent, alors là, est-ce qu'il
coûte moins d'argent à court terme? Là?
À court terme, c'est sûr, pour une autre année. Oui. Alors, est-ce qu'on libère de l'espace en même temps? Ça permettrait au Lightning d'aller chercher en plus de se libérer de l'espace. Et ça veut dire que le Canadien prendra un salaire à ce moment-là, si c'est le cas. Là.
Il prendra un joueur qui a une bonne paye
retour. Mais donc, ça doit être un bon joueur.
Ça doit être un bon joueur. Et Marc Bergevin ne prendra pas un joueur de 30 ans.
Non.
Il va prendre un joueur dans le milieu de la vingtaine, tout au plus, vers la fin de la vingtaine. Un gars qui a plusieurs années à donner si une transaction comme celle-là marchait.
Palate?
Gourde?
Oh. Les deux, c'est des joueurs de 28 ans.
Avec des salaires... Assez imposant sur la masse
assez
salariale.
Assez imposant et Gourde un contrat beaucoup plus long que celui de
À la
de
défense, Palat. On voit pas beaucoup de possibilités, Cernak, mais bon, c'est un jeune défenseur sur un contrat d'entrée chez les professionnels. Je pense pas là, qu'on bouge Cernak, mais bon,
non.
C'est à voir. Oui. Ça reste spéculatif, mais c'est pas normal que le Lightning envoie trois recruteurs, surtout pas pour faire du recrutement d'avant-match contre les Bruins. Tu n'as pas besoin de trois recruteurs pour
non,
faire ça.
Non, pour voir la même chose, non.